Josué chapitre 22. Alors Josué appela les Rubénites, les Gadites et la demi-tribu de Manassé. Il leur dit : Vous avez observé tout ce que vous a prescrit Moïse, serviteur de l'Éternel, et vous avez obéi à ma voix dans tout ce que je vous ai ordonné. Vous n'avez point abandonné vos frères, depuis une très longue période jusqu'à ce jour. Et vous avez gardé les ordres, les commandements de l'Éternel, votre Dieu. Maintenant que l'Éternel, votre Dieu, a accordé du repos à vos frères, comme il leur avait dit, retournez et allez vers vos tentes, dans le pays qui vous appartient, et que Moïse, serviteur de l'Éternel, vous a donné de l'autre côté du Jourdain. Ayez soin seulement d'observer et de mettre en pratique les ordonnances et les lois que vous a prescrites Moïse, serviteur de l'Éternel. Aimez l'Éternel, votre Dieu, marchez dans toutes ses voies, gardez ses commandements, attachez-vous à lui, et servez-le de tout votre cœur et de toute votre âme. Et Josué les bénit et les renvoya, et ils s'en allèrent vers leurs tentes. Moïse avait donné à une moitié de la tribu de Manassé un héritage en Basan, et Josué donna à l'autre moitié un héritage auprès de ses frères, en deçà du Jourdain, à l'Occident. Lorsque Josué les renvoya vers leurs tentes, il les bénit, et leur dit : Vous retournez à vos tentes avec de grandes richesses, avec des troupeaux fort nombreux, et avec une quantité considérable d'argent, d'or, d'airain, de fer et de vêtements. Partagez avec vos frères le butin de vos ennemis. Les fils de Ruben, les fils de Gad, et la demi-tribu de Manassé s'en retournèrent, après avoir quitté les enfants d'Israël à Silo, dans le pays de Canaan, pour aller dans le pays de Galaad, qui était leur propriété, et où ils s'étaient établis comme l'Éternel l'avait ordonné par Moïse. Quand ils furent arrivés au district du Jourdain qui appartient au pays de Canaan, les fils de Ruben, les fils de Gad, et la demi-tribu de Manassé y bâtirent un autel près du Jourdain, un autel dont la grandeur frappait les regards. Les enfants d'Israël apprirent que l'on disait « Voici !» Les fils de Ruben, les fils de Gad et la demi-tribu de Manassé ont bâti un autel en face du pays du Jourdain, de Canaan, dans les districts du Jourdain, du côté des enfants d'Israël. Lorsque les enfants d'Israël eurent appris cela, toute l'assemblée des enfants d'Israël se réunit à Silo pour monter contre eux et leur faire la guerre. Les enfants d'Israël envoyèrent auprès des fils de Ruben, des fils de Gad et de la tribu de Manassé, au pays de Galaad, Phiné, fils du sacrificateur Éléazar, et 10 princes avec lui, un prince par maison paternelle pour chacune des tribus d'Israël. Tous étaient chefs de maison paternelle parmi les milliers d'Israël. Ils se rendirent auprès des fils de Ruben, des fils de Gad et de la demi-tribu de Manassé, au pays de Galaad, et ils leur adressèrent la parole en disant : Ainsi parle toute l'assemblée de l'Éternel. Que signifie cette infidélité que vous avez commise envers le Dieu d'Israël ? Et pourquoi vous détournez-vous maintenant de l'Éternel, en vous bâtissant un autel pour vous révolter aujourd'hui contre l'Éternel ? Regardons-nous comme peu de chose le crime de Péor, dont nous n'avons pas jusqu'à présent enlevé la tache de dessus nous, malgré la plaie qu'il attira sur l'assemblée de l'Éternel ? Et vous vous détournez aujourd'hui de l'Éternel ? Si vous vous révoltez aujourd'hui contre l'Éternel, demain il s'irritera contre toute l'assemblée d'Israël. Si vous tenez pour impur le pays qui est votre propriété, passez dans le pays qui est la propriété de l'Éternel, où est fixée la demeure de l'Éternel, et établissez-vous au milieu de nous. Mais ne vous révoltez pas contre l'Éternel, et ne vous séparez pas de nous, en vous bâtissant un autel, outre l'autel de l'Éternel notre Dieu. Achan, fils de Zérak, ne commit-il pas une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit, et la colère de l'Éternel ne s'enflammait-elle pas contre toute l'assemblée d'Israël ? Il ne fut pas le seul qui périt à cause de son crime. Les fils de Ruben, les fils de Gad et la demi-tribu de Manassé répondirent ainsi au chef des milliers d'Israël. Dieu, Dieu, l'Éternel, Dieu, Dieu, l'Éternel le sait, et Israël le saura. Si c'est par rébellion et par infidélité envers l'Éternel, ne vient point à notre aide en ce jour. Si nous nous sommes bâtis un autel pour nous détourner de l'Éternel, si c'est pour y présenter des holocaustes et des offrandes, et si c'est pour y faire des sacrifices d'action de grâce, que l'Éternel en demande compte. C'est bien plutôt par une sorte d'inquiétude que nous avons fait cela, en pensant que vos fils diraient un jour à nos fils : Qu'y a-t-il de commun entre vous et l'Éternel, le Dieu d'Israël ? L'Éternel a mis le Jourdain pour limite entre nous et vous, fils de Ruben et fils de Gad. Vous n'avez point de part à l'Éternel. Et vos fils seraient ainsi, cause que nos fils cesseraient de craindre l'Éternel. C'est pourquoi nous avons dit : Bâtissons-nous donc un autel, non pour des holocaustes et pour des sacrifices, mais comme un témoin entre nous et vous, entre nos descendants et les vôtres, que nous voulons servir l'Éternel devant sa face par nos holocaustes et par nos sacrifices d'expiation et d'action de grâce, afin que vos fils ne disent pas un jour à nos fils : Vous n'avez point de part à l'Éternel. Nous avons dit : S'ils tiennent dans l'avenir ce langage à nous ou à nos descendants, nous répondrons : Voyez la forme de l'autel de l'Éternel, qu'ont fait nos pères, non pour des holocaustes et pour des sacrifices, mais comme témoins entre nous et vous. Loin de nous la pensée de nous révolter contre l'Éternel et de nous détourner aujourd'hui de l'Éternel, en bâtissant un autel pour des holocaustes, pour des offrandes et pour des sacrifices, outre l'autel de l'Éternel, notre Dieu, qui est devant sa demeure. Lorsque le sacrificateur Phinée et les princes de l'assemblée, les chefs des milliers d'Israël, qui étaient avec lui, eurent entendu les paroles que prononcèrent les fils de Ruben, les fils de Gad et les fils de Manassé, ils furent satisfaits. Et Phinée, fils du sacrificateur Éléazar, dit aux fils de Ruben, aux fils de Gad et aux fils de Manassé : Nous reconnaissons maintenant que l'Éternel est au milieu de nous, puisque vous n'avez point commis cette infidélité contre l'Éternel. Vous avez ainsi délivré les enfants d'Israël de la main de l'Éternel. Phinée, fils du sacrificateur Éléazar, et les princes quittèrent les fils de Ruben et les fils de Gad, et revinrent du pays de Galaad dans le pays de Canaan, auprès des enfants d'Israël, auxquels ils firent un rapport. Les enfants d'Israël furent satisfaits. Ils bénirent Dieu, et ne parlèrent plus de monter en armes pour ravager le pays qu'habitaient les fils de Ruben et les fils de Gad. Les fils de Ruben et les fils de Gad appelèrent l'autel Ed, car, dirent-ils, il est témoin entre nous que l'Éternel est Dieu.
Voilà, c'est un épisode particulier. Bon, je vais baisser ça parce que c'est un peu haut. C'est un épisode particulier. Voilà, c'est ce qu'on pourrait appeler presque. Presque bien. C'est quand on accomplit quelque chose que Dieu n'a pas demandé. Alors, il y a de la bonne volonté, mais il n'y a pas d'obéissance. On a fait quelque chose que l'on pourrait soupçonner que Dieu aurait pu demander. Mais en fait, Dieu ne l'a pas demandé. Dieu n'a rien dit à ces gens-là. Il n'a pas dit de bâtir un autel. Il n'a pas dit de faire un témoignage à un certain endroit. Ils ont soupçonné et supposé que les frères, un jour, leurs frères, les Israélites, eh bien, diraient « Vous n'avez aucune part avec nous ». Ils ont fait un procès d'intention. Ils ont dit, voilà, c'est le reste des tribus qui sont autour du tabernacle, autour de l'autel, qui ont part à toutes ces choses, eh bien, peuvent dire, de l'autre côté du Jourdain, ce sont des étrangers. Ce ne sont pas ils ne sont pas entièrement Israël. Alors, ils ont dit, ça risque d'arriver. Alors, on bâtit un autel en témoignage que nous sommes bien des tribus d'Israël. Et en fait, non. C'est la bonne volonté, ce n'est pas suffisante. Ce qu'il faut, c'est l'obéissance. Dieu n'a rien dit. Et on doit encore moins soupçonner les autres de ce qu'ils pourraient penser et des intentions qu'il pourrait y avoir dans les générations à venir. On doit regarder les autres comme étant sans mauvaise intention. Voilà. On les regarde comme on n'a pas été témoin du mal, on n'a pas vu quelque chose de mauvais, alors on n'a pas à soupçonner le mal. Et c'est le malheur que bien souvent des gens regardent les autres et disent « oui, mais il peut avoir l'intention d'agir de cette manière-là », ce qu'on appelle un procès d'intention. Voilà. Et malheureusement, cela arrive souvent, plus souvent que vous le pensez, qu'on dit « mais il pourrait bien faire cela ». Il y a un homme longuement éprouvé de la part de Dieu, si vous connaissez Job. Cet homme longuement éprouvé, eh bien, avait trois amis. Et un des trois amis, Eliphaz, lui a dit « tu abandonnes l'Éternel et même tu enseignes aux autres à abandonner l'Éternel ». Eliphaz, c'est celui qui va le plus loin que de tous. Des quatre, il est allé très loin. Et alors, il a fait des procès d'intention. Si tu es dans cette situation-là, c'est que tu as certainement commis un péché. Certainement, tu as fait cela, tu as agi de cette manière-là. Quel est le malheureux qui n'a pas... Et quel est le... Voilà. Il a fait un procès d'intention. Alors que Job était parfaitement juste, les apparences étaient contre lui, mais il a préféré soupçonner le mal. Il s'est dit, s'il est si accablé, c'est qu'il a commis du mal. Et c'est dans cette histoire, Eh bien, les Rubénites, Gad et demi-tribus de Manassé, ont dit on pourrait nous penser que nous ne sommes pas d'Israël. Mais personne n'a jamais eu cette pensée-là. C'est un soupçon. Voilà, simplement. Ils se sont dit on risque un jour de nous rejeter de la communion d'Israël parce que nous sommes de l'autre côté du Jourdain. C'est vrai que c'est humain. On dit, après tout, ceux qui sont de ce côté du Jourdain, ce sont les vrais Israélites. Et de l'autre côté, ils sont moins bons Israélites. Mais ce n'est pas arrivé. Et ce n'est jamais arrivé. C'est malheureux, mais c'est comme cela. Ils ont soupçonné. Et alors, ils ont bâti un autel. L'autel était magnifique, il était grand, hein? La grandeur frappait les regards, c'est-à-dire qu'on le voyait de loin. Donc, pour que ce soit un témoignage, voilà. Alors, pourquoi un autel? Pourquoi pas un monceau de pierre? Pourquoi pas, je sais pas, n'importe quoi d'autre? Pourquoi un autel? L'autel avait une connotation forte. Un autel, c'était pour offrir des sacrifices. Ce n'était pas pour rester sans sacrifice. On bâtissait pas un hôtel pour rien. Et là, ils ont bâti un hôtel pour rien. Et c'est justement, ils ont créé un conflit ou l'amorce d'un conflit par manque de sagesse. Voilà. D'abord, on a soupçonné le mal, qu'on pourrait avoir des intentions. Et ensuite, ils ont fait quelque chose qui avait une forte connotation dans le culte d'Israël et qui pouvait laisser entendre que le peuple, eh bien, ne se détournait pas forcément du vrai Dieu, mais allait offrir des sacrifices sur ce fameux autel, et plus sur l'autel qui est, Dieu avait dit, il n'y a qu'un seul endroit où vous offrirez les sacrifices, c'est sur l'autel qui est dans le tabernacle. C'est là que devaient s'offrir les sacrifices. Donc comme ils ont fait ce genre de choses, eh bien, les autres tribus se sont levées en armes et ont dit, maintenant on va résoudre le problème. Et rapidement, ils se sont détournés. Alors il a fallu une explication, voilà, nous avons de bonnes intentions, mais nous avons peur. Il a fallu de longs pourparlers pour arriver à apaiser la situation, de dire non, ils sont revenus, non, non, tout va bien, ils ont simplement construit un hôtel, mais ce n'était pas pour se détourner, c'était juste commémoratif, nous devons bien bien faire attention à ce que nous imaginons qui pourrait être la volonté de Dieu, ce qui pourrait plaire à Dieu. Et bien souvent, des chrétiens ont accompli des choses, c'était pour Dieu, mais sans Dieu. L'histoire de l'Église est remplie d'actions où on a fait des choses au nom de Dieu. Et Dieu n'était pour rien dans tout cela. Je vous parle pas des guerres et des massacres qui ont été faits au nom de Dieu et par une prétendue église, hein. Les pages d'histoire sont remplies de ce sang, de personnes qui sont mortes, qui ont payé pour des folies et allaient convertir les gens avec une épée. C'est alors que Dieu avait dit qu'il ne fallait pas faire de cette manière-là. Mais donc, ici, on a exactement cet exemple de ce peuple qui fait quelque chose que Dieu n'a pas dit. C'est alors que Dieu avait dit des multitudes de choses, hein. Il avait fait des promesses, il avait demandé que l'on accomplisse certaines choses, et puis ces choses-là, eh bien, n'ont pas été faites, ou elles ont tardé à être faites. Nous avons vu dans les précédentes études, combien le peuple avait été long à se décider à prendre possession du pays. C'est combien de fois nous, humains, eh bien nous sommes longs à faire ce que Dieu demande clairement dans sa parole, et ce que Dieu n'a pas demandé, eh bien nous sommes prêts à le faire. C'est comme ça, hein. Alors, je ne veux pas trop m'attarder là-dessus parce que on ne peut pas le laisser sous silence, parce que c'est tout un chapitre du livre de Josué Et c'est un événement qui aurait pu être très grave. Ça aurait pu mal tourner. Ça s'est bien passé, les choses se sont apaisées, mais il y a eu une mauvaise action qui a été commise et d'autres actions auraient pu se faire en répercussion et le peuple aurait pu en souffrir. Ça aurait pu être une guerre civile. C'est comme cela. Mais Dieu avait fait des promesses. Et c'est le territoire qui est à nous, que nous possédons, que Dieu nous a donné, ce sont les promesses de Dieu. Nous avons les promesses de Dieu. Dieu a parlé et nous avons à conquérir ces fameuses promesses. Comme je vous ai dit la dernière fois, Dieu avait fait des promesses à Josué et le peuple n'avait pas regardé les promesses faites à Josué comme les promesses faites à tout le peuple. C'était des promesses pour Josué. Et ils ne s'étaient pas sentis sous ces promesses-là. Donc, ils avaient choisi de laisser aller les choses, de ne pas se conquérir comme il le fallait, d'attendre, de ne pas être aussi, comment dire, le mot ne me vient pas. Il n'était pas assez déterminé. Il ne voulait pas vraiment faire ce que Dieu demandait. Donc ils ont tardé, négligé, parce qu'ils n'ont pas regardé les promesses que Dieu avait faites comme des promesses pour eux. Alors nous avons ces deux tribus et demi-tribus, qui, au lieu de se baser exactement sur ce que Dieu avait dit, qui rajoute quelque chose. Voilà, Dieu n'a pas dit de faire un mémorial, d'un souvenir, pour que, au cas où, il n'y ait pas de problème. Mais le peuple, est toujours pareil. Toujours, nous recherchons ce que Dieu n'a pas dit. C'est un fait de l'histoire que l'homme revient toujours à ce que Dieu n'a pas demandé. Si vous étudiez l'histoire de l'Église, vous verrez le nombre de fois où le peuple de Dieu s'est égaré dans des chemins où Dieu n'avait rien conduit, n'avait rien dit, et s'est engagé dans des choses où Dieu n'avait pas demandé. Alors il y a de la bonne volonté, on ne peut pas nier, mais en fait, c'est un manque de sagesse. Combien de fois des chrétiens se sont engagés dans de la politique ? Et on fait de la politique. Je me rappelle des chrétiens qui m'ont dit « Mais il faut que nous fassions de la politique, au moins qu'il y ait des chrétiens qui soient maires. On a le droit de dire quelque chose, mais c'est une erreur. » Combien de fois des chrétiens se sont engagés dans ces chemins où Dieu n'a rien dit ? Dieu n'a pas dit de faire de politique. Dieu n'a pas dit de conquérir le monde par l'épée. Et il y a des gens qui ont dit « Mais il faut que les chrétiens s'engagent dans ces actions, il faut aller rendre la justice. » Et il y a des chrétiens qui se sont mêlés de rendre la justice par les armes. À certains endroits, ils ont fait des massacres, malheureusement. Et ce sont des tâches dans l'histoire de l'Église. Des chrétiens sont allés là où ils ne devaient pas aller et faire des œuvres qu'ils n'auraient jamais dû faire, parce qu'ils étaient chrétiens. Et Dieu leur avait commandé une autre mission. Je me rappelle de chrétiens qui avaient, je ne vais pas rentrer dans trop de détails, mais qui ont travaillé pour vendre des armes, pour que dans certains pays, les peuples se fassent la guerre et qu'ils s'affranchissent des oppresseurs. Voilà. Et il y a des fonds donnés par des églises, et je dis des églises non pas catholiques, mais évangéliques, qui ont donné de l'argent pour que la guérilla pour la libération des peuples s'accomplisse. Mais Dieu ne nous a pas demandé de faire des choses de ce genre. Il y a ce que Dieu n'a pas demandé. Et il y a ce que Dieu a demandé. Et là, nous sommes tellement négligents à faire ce que Dieu a demandé. Quand ce que Dieu a demandé, c'est de conquérir le monde, oui, mais par l'Évangile. D'annoncer l'Évangile, d'amener toute âme à la connaissance de Christ, à la connaissance de l'Évangile. Dieu nous a demandé de combattre le bon combat de la foi. C'est dans la prière On combat dans la prière, mais dès qu'un chrétien lève une arme contre un autre être humain, il commet quelque chose que Dieu n'a jamais demandé. Et malheureusement, il y a eu des personnes qui ont eu de bonnes intentions. Ils ont voulu rendre la justice, ils ont voulu faire des choses, et puis ils ont milité pour toutes sortes d'œuvres de ce monde, mais ce n'était pas pour la gloire de Dieu, ce n'était pas pour l'avancement du règne de Christ. Nous devons bien bien faire attention à ce que nous faisons. Dieu nous a donné sa volonté clairement exprimée dans sa parole, et nous devons la chercher avec précaution, méticuleusement. Nous devons savoir ce que Dieu a dit, ce que Dieu a dit réellement. Comme cela, nous sommes gardés. Ces deux tribus et demi auraient dû se dire, mais Dieu n'a pas demandé. Il y a ce que Dieu a dit, mais il y a ce que Dieu n'a pas dit. Et quand Dieu n'a pas dit quelque chose, eh bien, nous ne devons pas prendre l'initiative. On doit rechercher et savoir si c'est le plan de Dieu ou si c'est la volonté de Dieu. Par contre, il y a des choses, clairement, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas de notre domaine. Cela ne nous concerne pas. Ce n'est pas notre rôle. On a autre chose à faire. Si on était bien attaché à ce que Dieu a demandé, si on se focalisait vraiment, entièrement, dans ce que Dieu a demandé, si on y mettait nos forces, eh bien, les choses seraient différentes. Je me rappelle de chrétiens qui avaient un programme télé. Hein. Vous voulez avoir un programme télé. Voilà. Alors, si nous avions un programme télé, ça serait formidable, etc. Mais si Dieu nous donnait l'occasion, vraiment une occasion, ouvrait une porte extraordinaire pour... Oui, mais en attendant, Dieu nous demande d'accomplir certaines actions qui, ben, c'est pas la télé. Et on va pas faire un journal télévisé chrétien. C'est comme cela. Il n'y a pas de... Mais par contre, Dieu nous a demandé d'autres choses. Il y a des actions qui motivent énormément. Je connais des gens, dès qu'on parle de multimédia, de télé, de toutes ces choses-là, alors là, ils sont vraiment dans le rêve, hein. Vous pouvez leur parler des heures avec ce genre de choses. Mais il y a des commandements, il y a ce que Dieu nous a dit d'accomplir. Et cela, eh bien, nous le négligeons parce que nous sommes attachés à des choses qui ne sont pas forcément pour nous. C'est vrai, il y a des chrétiens dans certains pays, aux États-Unis par exemple, mais ce n'est pas toujours une réussite. Il y a certains prédicateurs, ce sont des vedettes de télévision, mais leur impact n'est pas aussi grand que cela. Tandis que ce que Dieu nous demande, c'est la prière, c'est l'intercession, c'est de nous aimer les uns les autres, d'avoir un amour pour les âmes perdues qui va jusqu'à donner notre vie pour les âmes perdues. Ça, oui, ça c'est demandé, mais c'est demandé avec... impérativement, ce n'est pas facultatif, c'est quelque chose qu'il faut accomplir. Et c'est malheureusement, eh bien, nous sommes attachés aux choses visibles. C'est cet autel que l'on peut voir de loin. Voilà. C'est quelque chose qui laisse un doute, qui n'est pas tout à fait... ça ressemble à quelque chose de mal. Mais on se dit, ah ben non, c'était pas si mal que ça finalement. Mais il y a un doute. Tandis qu'il y a des choses que Dieu nous demande où il n'y a pas de doute. Dieu a dit, alors nous devons le faire. Et il y a même des actions, ne cherchez pas la volonté de Dieu, parce que vous devez le faire. Ce n'est pas quelque chose que nous devons dire, est-ce que je vais prier? Quand est-ce qu'un chrétien doit prier? Mais la parole de Dieu nous dit prier sans cesse. C'est à chaque instant, à chaque moment. C'est quand parler de l'évangile, quand annoncer l'évangile. Mais dès que nous avons l'occasion, si vous rencontrez quelqu'un et que vous avez une bonne occasion, Alors vous avez l'occasion de le faire, faites-le. C'est par contre, eh bien, nous sommes attirés par les choses qui sont ce qu'on appelle en bon français du tape à l'œil. Voilà, c'est ça se voit. C'est quelque chose qui attire. Malheureusement, le peuple d'Israël s'est détourné. Mais le Dieu avait fait des promesses. Et le chapitre précédent, le verset 45. De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet. Toutes s'accomplirent. Et puis vous avez une autre parole. Ça se trouve chapitre 23, les versets 14 et 15. Voici, je m'en vais maintenant par le chemin de toute la terre. Reconnaissez de tout votre cœur et de toute votre âme qu'aucune de toutes les bonnes paroles prononcées sur vous par l'Éternel votre Dieu n'est restée sans effet. Toutes se sont accomplies pour vous, aucune n'est restée sans effet. Et comme toutes les bonnes paroles que l'Éternel votre Dieu vous a dites se sont accomplies pour vous, de même, l'Éternel accomplira sur vous toutes les paroles mauvaises. Malheureusement, le peuple en était resté avec des histoires d'autels et des choses comme cela, alors que Dieu avait fait des promesses. Il a fait des promesses. Il a fait des promesses à Moïse, il a fait des promesses à Josué, il a fait des promesses à tout le peuple, et ces promesses, eh bien, ils ont vu leur accomplissement. Et c'était cela qui était le lien entre le peuple d'Israël. C'était le peuple de Dieu. C'était la nation d'Israël. C'est vrai qu'il y avait des tribus, c'est vrai qu'il y avait des divergences. Certains faisaient d'une manière, les autres d'une autre. Je ne sais pas, ils cultivaient peut-être pas les champs de la même manière, ou bâtissaient pas les maisons de la même manière, ou leur ville était construite différemment, je ne sais pas. Mais en tout cas, une chose est certaine, c'est que Dieu avait fait des promesses pour tout le peuple. Et ces promesses concernaient la nation tout entière. Et ce ne concernait pas deux tribus et demie d'un côté du Jourdain et les autres tribus de l'autre côté du Jourdain. Ça concernait toutes les tribus. C'est à partir du moment où ils se réunissaient sous les promesses de Dieu et sous l'obéissance à Dieu qu'ils étaient unis. Ce n'était pas un monceau de pierre qui pouvait les unir. C'était l'obéissance. C'est allons-y ensemble, faisons-le ensemble, marchons ensemble, vivons ensemble, accomplissons les choses ensemble. C'est ce qui ajoutait l'unité d'Israël, c'était justement l'obéissance. Quand Dieu disait au peuple d'Israël de se réunir à tel endroit pour la Pâque, par exemple, pour les différentes fêtes à différents moments de l'année, eh bien, le peuple d'Israël n'ignorait pas que ces deux tribus de l'autre côté du Jourdain, eh bien, elles étaient bien présentes et elles faisaient partie d'Israël. C'est au cours de l'année, il y avait des occasions de rencontre. Ils se voyaient plusieurs fois dans l'année. Ils faisaient le déplacement, le voyage. Et c'était pas besoin d'un monceau de pierre. Rien ne valait l'obéissance. L'obéissance. Et il y avait les promesses de Dieu. Dieu avait fait les promesses. Tout s'était accompli. C'était le peuple d'Israël pouvait dire, Dieu a parlé et nous avons conquis le pays. Ensemble. Nous avons fait quelque chose qui était dans la volonté de Dieu ensemble. Il y avait l'unité était là. L'unité se faisait dans la marche avec Dieu, dans les victoires avec Dieu, dans le combat avec Dieu, tous ensemble. Vous voyez la petitesse de l'autel qui avait été bâti de ce côté du Jourdain. C'est l'incrédulité qui a bâti quelque chose. Parce que Dieu lui-même avait pris les précautions pour qu'il n'en soit pas ainsi. Le peuple était uni parce qu'il était le peuple d'Israël. Et quand le peuple d'Israël marchait ensemble à la gloire de Dieu, eh bien il était un peuple. Il n'y avait pas des tribus d'un côté et des tribus de l'autre. Ce risque n'existait pas. Et souvent, eh bien, nous avons, on a peur. On se dit, ça risque d'arriver. Non, ça ne risque pas d'arriver. Josué, juste avant de terminer sa course, eh bien, il donne des recommandations au peuple d'Israël. Et on va juste lire quelques versets. Chapitre 22, le verset 5, la deuxième partie. Aimez l'Éternel votre Dieu, marchez dans toutes ses voies, gardez ses commandements, attachez-vous à lui et servez-le de tout votre cœur et de toute votre âme. Vous vous rappelez ce verset? C'est quel est le plus grand de tous les commandements? Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et là, eh bien, il est dit, servez-le de tout votre cœur et de toute votre âme. Et le Seigneur Jésus avait dit, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Dès que l'on a, vous voyez, entre l'amour et l'obéissance, la distance n'est pas très grande. Le peuple d'Israël était uni dans l'obéissance. Servez l'Éternel. Il donne des recommandations et des commandements qui avaient pour bénéfice d'unir le peuple d'Israël. Si tout le peuple d'Israël obéissait, s'il marchait fidèlement, eh bien, l'histoire de la désunion et du Jourdain qui était trop large pour séparer qui séparait les tribus, et qu'un jour il risquait d'y avoir une division, eh bien, ce problème n'existait pas. Il avait dit, aimez l'Éternel votre Dieu, marchez dans toutes ses voies, gardez ses commandements, attachez-vous à lui, servez-le de tout votre cœur et de toute votre âme. Je vous recommande ce verset comme une méditation, une bonne méditation pour vous. Vous pouvez passer du temps là, sur ce verset. Il y a des choses très importantes qui sont dites. Et puis, il leur dit, chapitre 23, le verset 6, « Appliquez-vous avec force à observer et à mettre en pratique tout ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse, sans vous détourner ni à droite, ni à gauche. » C'est pour sauvegarder l'unité, rien ne vaut aussi, mais de toute sa force. C'est-à-dire, appliquez-vous avec force, avec énergie, si on peut dire. La vie chrétienne n'est pas une vie passive. Beaucoup de chrétiens croient que la vie chrétienne est passive et que ben, on fait une chose et puis on fait une autre et puis si tout va bien, eh bien on continuera et si on se laisse aller comme si c'était sur un fleuve, on descend la rivière lentement et calmement, voilà, ça descend. Mais la parole de Dieu nous enseigne que dès que l'on veut marcher avec Dieu, c'est à contre-courant. Il faut lutter contre le courant. Il faut lutter contre des forces antagonistes. Et il faut se battre parce que il y a des forces qui travaillent, qui conspirent à nous détourner et à nous amener en arrière. Et donc, il y a un combat, il y a une lutte. Et dans cette lutte, eh bien, on est vigilant. On perd la vigilance. Quand on commence à se reposer, on dit, bon, là, je peux baisser un peu les bras. Jusqu'à présent, ça a été dur, mais là, je prends un peu de repos. Eh bien, c'est là que nous commençons à nous détourner. Et puis, le verset 11. « Veillez donc attentivement sur vos âmes, afin d'aimer l'Éternel, votre Dieu. » Il leur dit, « Veillez attentivement. » Tout à l'heure, c'était « Appliquez-vous avec force. » Maintenant, c'est attentivement. Les mots sont très, très forts. Et puis, nous avons la suite. C'est le 24, verset 14. « Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte. Et servez l'Éternel. » Voilà toutes les recommandations que Josué fait au peuple. C'est un discours qu'il leur fait. Avec de pareilles directions, on ne peut plus craindre la division. Dès que on marche avec Dieu, dès que l'on s'attache à Dieu, dès que on s'applique de toutes nos forces, de toute notre intelligence, toute notre volonté, quand nous voulons vraiment, eh bien, il y a des choses qui n'ont pas de prise. Elles ne peuvent pas dominer. Elles sont obligées de reculer. Elles perdent pied. C'est nos petites craintes. Oui, mais il risque d'arriver ceci. Mais il risque d'arriver cela. Non, ça n'arrivera pas. Parce que dès que l'on est vigilant, dès que l'on veille, dès que l'on accomplit les choses, dès que les choses se font comme il faut, eh bien, la victoire est là. Et on n'a pas de... Nos craintes, eh bien, elles étaient injustifiées. Injustifiées. Alors, vous avez cette dernière parole. Hein. Je l'ai gardée pour la fin. Josué, il dit au peuple, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Voilà. Beaucoup de chrétiens, quand vous entrez dans leur maison, vous avez ces paroles. Hein. Et je pense que mes parents, pendant longtemps dans leur séjour, à l'entrée, il y avait « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » C'est une bonne devise. Mais c'est mieux que de l'avoir dans son cœur que sur le mur. Hein. Certains, c'est juste sur le mur. Et ils ne se rendent pas compte que vous avez des maisons, ce sont des foyers de querelles, de disputes, de médisances, de méchanceté. Et on est loin de ce qui est écrit sur le mur. Hein. Alors, je vous recommande ces paroles. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et je peux dire une chose, c'est que la bénédiction de Dieu est sur ceux qui servent l'Éternel. On n'a pas besoin pour servir l'Éternel d'être dans un ministère à plein temps, d'être un pasteur ou un évangéliste. Chaque chrétien sert l'Éternel. Il sert dans la mesure que Dieu lui a donnée. C'est dans son cadre, dans sa sphère, là où il se trouve. On sert l'Éternel. On le sert dans toutes les circonstances. Dieu remplit notre cœur. Il est toujours là. Il est toujours présent. Tout ce qu'on fait, c'est pour lui. C'est à sa gloire. C'est pour l'avancement de son règne. Pour qu'il soit mieux connu, mieux aimé, mieux recherché. C'est cela ce que veut dire « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». On sert l'Éternel, on marche avec lui. Et puis, vous savez ce que vous êtes peut-être jeune, hein, vous allez vous marier, vous êtes marié, vous aurez un jour des enfants. Si vous servez l'Éternel de tout votre cœur, de toute votre âme, si vous êtes consacré complètement, sachez une chose, c'est que votre témoignage vécu, votre vie de tous les jours, eh bien, elle parlera à vos enfants. Si vous vous détournez de l'Éternel, si vous faites les choses avec négligence, si vous êtes chrétien à moitié, vos enfants ne seront pas chrétiens du tout, même parfois. Certains chrétiens ont le malheur de dire « mes enfants ne sont pas chrétiens » parce qu'ils n'ont pas donné l'exemple, parce qu'ils n'ont pas dit « je servirai l'Éternel ». Parce que quand on dit « moi et ma maison, nous servirons l'Éternel », c'est d'abord moi. Parce qu'on est tout seul. Et on dit « moi, je servirai l'Éternel. Je marcherai avec lui tous les jours de ma vie. Il n'y a pas un jour sans. Il n'y a pas un jour à moitié. C'est toujours servir l'Éternel. » Et puis au fur et à mesure, on avance dans notre vie chrétienne et dans notre vie. Et alors, on crée une union, on se marie et on avance dans la vie. Et il y a les enfants. Et on continue et on persévère dans ce que l'on a décidé, choisi un jour, cette fidélité. Et puis, on voit que nos enfants suivent après. Pas toujours, mais ils mettent du temps parfois. Mais un jour, eh bien, ils se décident et ils suivent. Et puis, plus tard, eh bien, ce sont les petits-enfants même qui sont là et qui sont engagés dans l'œuvre de Dieu. Et on se dit, mais... comment c'est arrivé que trois générations, quatre générations plus tard, eh bien, il y a toujours des serviteurs de Dieu dans cette famille? Comment c'est possible? Comment c'est possible? Parce qu'un jour, un homme ou une femme a décidé et a dit « Je serai fidèle jusqu'au bout. Je ne céderai en rien. Dieu sera mon Dieu. Il sera mon Dieu le jour. » Il sera mon Dieu la nuit, il sera mon Dieu et je lui obéirai en toutes circonstances. Que les circonstances soient faciles, qu'elles soient difficiles, je marcherai dans la fidélité, je ferai ce qui plaît à Dieu. Et je choisirai toujours les voies droites de Dieu. Et Vous ensemencez un champ que un jour vous moissonnerez, vous récolterez ce que vous avez semé. Si vous négligez, c'est comme il a dit, hein, je vous rappelle, appliquez-vous avec force, veillez attentivement. Et puis, aimez l'Éternel, votre Dieu, marchez dans ses commandements, servez-le de tout votre cœur et de toute votre âme. Si c'est de cette manière-là, eh bien, vous laisserez une bénédiction derrière vous. J'ai un principe. On vit, on prend un monde, on arrive dans un monde, à un moment donné de l'histoire. On est né à ce moment de l'histoire, on n'a pas choisi. On est né à ce moment-là de l'histoire. Mais un jour, on va le quitter. On le quittera tôt ou tard. Mais quand on va le quitter, on ne peut pas le laisser de la même manière, dans le même état qu'on l'a pris en arrivant. Et j'espère que nous laissons un monde meilleur derrière nous, après notre passage. Que les gens qui nous ont vus vivre, avec lesquels nous avons vécu, eh bien, ils soient marqués par notre vie, par notre détermination, par notre zèle, par notre consécration, par notre amour pour le Seigneur, par notre paix, par notre joie, par notre vie vécue vraiment pour Christ. On n'a pas besoin de bâtir un autel en pierre qui est, voilà, mais ça c'est le témoignage en pierre que je suis un bon chrétien, hein. Mais c'est le témoignage d'une vie, c'est le témoignage de chrétiens qui marchent fidèlement, qui sont consacrés, qui vivent vraiment la vie chrétienne, qui ne vivent pas à moitié, qui ne vivent pas un jour oui, un jour non, ou qui vivent seulement le dimanche, ou qui pour les grandes occasions. Mais les chrétiens, même dans le secret, même quand personne ne vous voit, vous êtes toujours un chrétien fidèle, un chrétien qui aime le Seigneur, qui s'attache à lui. Comme le Seigneur Jésus dit à Nathanaël, voici un homme, un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Et Nathanaël lui dit, d'où me connais-tu ? Quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Qu'est-ce qui s'est passé sous le figuier ? Dieu seul le sait. Le Seigneur Jésus, lui, le savait. Et Nathanaël savait ce qui s'était passé sous le figuier. Et je suis persuadé que sous le figuier, il a été tenté. Il a dit non. Je suis prêt à perdre beaucoup, mais je servirai Dieu et je serai fidèle, même si je perds beaucoup. Et il a eu l'approbation. Et un jour, eh bien, on aura l'approbation de Dieu. Un jour, on sera dans l'éternité. On sera dans la présence de Christ. Et c'est là que nous rendrons compte. C'est des choses visibles et des choses invisibles, des choses cachées, ce que nous n'avons pas fait en public, ce que nous avons honte de dire, même, on se l'avoue, même difficilement. Mais un jour, eh bien, il faudra rendre des comptes pour toutes choses. Et c'est pour cela que je vous dis, c'est les paroles, les trois versets que je vous ai cités tout à l'heure, sont très forts. C'est-à-dire que l'homme se détermine et fait un choix. Et il dit, je le ferai et j'irai jusqu'au bout. Ces personnes ne m'empêchera d'être le chrétien que Dieu demande. J'irai jusqu'au bout et je le ferai parce que Dieu me le demande et parce que je veux que ce soit un témoignage et que ce soit vécu et que ça marque mon entourage. Et je peux vous dire, ça marquera même vos enfants. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alors, votre maison, elle est peut-être dans l'avenir. Mais en tout cas, ce qui est pour aujourd'hui, c'est vous. Moi, je servirai l'Éternel. Et ensuite, eh bien, Dieu ajoutera votre maison. Et vous verrez comment Dieu peut être vraiment extraordinaire. Comment il peut faire des choses qui vous dépassent, que vous n'imaginez même pas. Mais vous devez faire des choix. Et ce sont ces choix-là que l'on fait et que l'on fait pour une vie. Il y a un moment donné dans notre vie où on fait ses choix. Ce n'est pas quelque chose qui arrive par hasard. Voilà, j'ai fait un choix, je ne m'en suis pas rendu compte, mais j'ai fait un choix. Non, il y a un moment dans notre vie où on dit, je fais ce choix. Je fais le choix de l'honnêteté. Je fais le choix de la droiture. Je fais le choix de la consécration. C'est un choix. J'ai déjà répété, hein, j'ai déjà dit. Mais je vous le répète encore, parce que je ne veux pas que vous soyez dans l'incertitude et dans le doute. Ne croyez pas que les choses arrivent à votre insu, sans que vous l'ayez prévu, voilà, ben tout va bien. Il y a des mouvements, dits chrétiens, qui attendent de Dieu. Ils attendent. et certains attendent encore. Je me rappelle d'un jeune, maintenant il ne doit plus être très jeune, parce que ça fait 40 ans, donc il ne doit plus être très jeune. Mais il attendait la volonté de Dieu. Ah, oui, moi j'irai quand Dieu me donnera sa volonté. Et il a attendu et attendu et attendu, il attend toujours, parce qu'il attendait pour ne pas la faire. Alors Dieu ne donne pas sa volonté. Mais ceux qui veulent vraiment, alors, ceux qui ont l'audace d'entreprendre, d'avancer, d'agir, eh bien Dieu est avec eux.